Les états de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les crédences petites bourgeoises de la bonne santé.
Et tu cherches un
Un emploi de chanteur d'opéra.
Chanteur d'opéra, c'est une belle profession et tu es intéressé par l'opéra?
Non, pas vraiment, non.
Non, par le chant, fais-tu sais chanter?
Non plus, non.
Non, tu connais les autres tu... Non,
non, non, non, non.
Mais que diable est-il faire dans cette galère?
Vous avez raison, mais hâtez-vous!
Qui avait-il quoi d'autre problème?
Cela est vrai, mais faites promptement,
maudite galère!
Ah, cette galère me tient au cœur.
Une histoire pas comme les autres. Une histoire qui vous sera contée en musique et par les instruments de l'orchestre.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Scène de vie, vie de scène du mois de septembre. Bonjour Cécile.
Bonjour JC.
Et puis bonjour Nathalie aussi, nous y reviendrons un petit peu plus tard.
Bonjour.
Cette émission ouvre la nouvelle saison, voilà, cette nouvelle rentrée, troisième rentrée pour Scène de vie, vie de scène. Saison durant laquelle nous poursuivrons à prendre le temps pour parler du spectacle vivant. Cette nouvelle saison marque, en tout cas cette première émission de cette nouvelle saison marque le retour de Nathalie, nous disions Nat is back.
Nat is back. Et oui, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour cette saison, après une petite aparté de 5 mois, mais une vraie belle aparté. Et voilà, je pense qu'on va un peu élargir aussi la team, hein, puisqu'on sera maintenant 3 dans l'équipe de Scène de vie, vie de scène, et on ponctuera l'année entre nos interventions, nos sujets, nos reportages, et je pense encore pas mal de belles découvertes et de nouveautés à vous proposer.
J'ai comme l'impression, en t'entendant Nathalie, que c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas de prendre le micro.
Non, je crois. Une fois qu'on a pris le pli, ça y est.
Exactement. Alors cette rentrée, justement, tu viens de le dire, marque également l'installation définitive de Cécile sur le tabouret en face de nous. Hein.
Avec grand plaisir.
Voilà. Puis moi, pas de changement, hein, je te rassure. Voilà, tout va bien. Au sommaire de cette émission du mois de septembre, justement, nous parlerons des escapades, des petites scènes.
Exactement, en fait, la scène nationale poursuit ses échappées dans les campagnes euroises.
Nous parlerons également de programmation et de rentrée avec notre invité.
Philippe de Roder, le directeur de la scène nationale Évreux-Louviers, est avec nous aujourd'hui et il nous expliquera sa programmation.
Bonjour à vous, d'ailleurs.
Bien, bonjour, bonjour.
Et vous pouvez intervenir à tout moment dans l'émission, bien entendu.
Je n'hésite
pas. Eh bien, n'hésitez surtout pas. Ensuite, nous parlerons des ouvertures de saison.
C'est la rentrée, et c'est la rentrée pour les structures culturelles de la région aussi.
Et elles sont assez riches. Nous avons une pile assez impressionnante face à nous. Pas pour vous faire la liste des programmations, mais pour vous donner envie, car il y a une multitude de salles
de
spectacles vivants autour de nous.
Exactement.
Nous ferons un tour dans la musique du monde.
Oui, on vous emmène en Lettonie, un ensemble de voix polyphoniques assez surprenant.
Et sans plus attendre, pour commencer cette émission, nous attaquons par la traditionnelle prise de son d'ambiance.
Thank you.
cette prise de son, JC, laisse tout le monde en plateau assez perplexe.
Exactement. Alors, c'est assez particulier comme prise de son. Alors, on va tout vous dire tout de suite. C'est une expérimentation sur le son. Nous avons eu l'occasion de suivre une nouvelle fois le concept MLFD qui travaille sur la recherche de son. On avait eu plein d'échanges avec eux d'ailleurs, on va pas les refaire, mais en tout cas autour de la musicalité du bruit, l'organisation des sons. Et là, c'était un travail autour de la réverbération et en tout cas les grands lieux. Ils étaient dans un château d'eau, donc dans le cylindre central du château d'eau avec une acoustique extrêmement particulière. Et ce que vous entendiez était uniquement des petits bruits de percussion qui étaient multipliés par cette réverbération qui passait à travers un petit capteur et un ampli de guitare. Voilà, c'est assez particulier et c'était pour créer un petit peu la surprise dans cette rentrée, voilà.
Ça a marché, je crois.
Oui.
Bah, j'ai l'impression.
Ça donne le ton, alors.
Voilà, on fera des choses peut-être un peu plus concrètes hein, durant l'année, mais celle-ci, c'était un petit coup de cœur, voilà, et c'est très, très particulier. Je vous invite d'ailleurs à aller faire un petit tour si vous souhaitez entendre la session complète, parce que là, ils étaient en calage de son. Ensuite, ils ont fait une session de 30 minutes sur le site MLFD. Voilà, notamment, c'était la dernière session enregistrée. C'est une ambiance, c'est toute une ambiance, voilà. Je propose que nous passions sur la première pause musicale. On parlait le thème un petit peu de cette émission, c'est la rentrée. Nous avons été en pré-rentrée au Silo à Verneuil-sur-Avre lors de l'annonce de la saison. Ils étaient sur le festival des mauvaises graines.
Les mauvaises graines, ouais. C'est l'ouverture de saison du Silo, en fait.
Voilà.
Et je crois, j'y sais que vous aviez. Enfin, c'est un groupe qu'on connaît déjà et qui tourne maintenant depuis un petit bout de temps. Et donc l'envie, c'était de revenir un peu sur ce qui marche debout.
Exactement, un moment de live du Silo.
Oh baby, I can't live without a vodka and soda and two wars in the sea.
Made in China, made in China, made in China.
Well, I'm not comfortable by my if I'm a preacher, I'm a TV set, I'm telling you.
Made in China, made in China, made in China.
Just for that I need to keep boys in track of good, baby.
Made in China, made in China, made in China.
There's a man a thing and find out a affordable computer, mobile and a fax.
I need to control me. Now bring me more big money, money, money. Baby, you're the one. Now cause you made it, I want your body. Made in China, made in China, made in China.
Oh, so I need a good watch, a bicycle, and a skateboard.
Made in China, made in China, made in China.
But I'm not talking about my two cars and my little yacht, no, no, no.
Made in China, made in China, made in China.
Save me one day, I'll get an airplane to start showing my stuff, yeah.
Made in China, made in China, made in China.
But baby, I will never get everything I need.
I need to consume it. Big money, money, money.
Oh là 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 là, regarde, Serge de Bouffignac on the bass. Bon, on vient à Nouvelle-Orléans, là-bas, ils donnent plein de colliers, alors nous, on a ramené plein de colliers pour vous. Puisqu'on est gentils, qu'est-ce qui veut un petit collier? Tu connais?
Joël. Joël, tu l'as? La voix de Fab.
Hein, qui?
La voix de Fabrice.
Qui n'en veut, qui n'en veut, qui n'en veut? Ouh.
Qui marche debout. C'était un extrait du live au Silo à Verneuil-sur-Avre à l'occasion du festival Les Mauvaises Graines. On les avait rencontrés, on leur avait dit qu'il y avait un côté fanfare, fanfare contemporaine. C'était notre ressenti, voilà, lorsqu'on les avait vus, assez mobiles, et puis avec des déplacements, ouais, dans tous les sens, et dans la fosse également. Voilà. Ce qui nous amène aux petites scènes, aux escapades petites scènes, Cécile, qu'est-ce donc?
Alors en fait, la saison dernière, la scène nationale avait clos en fait sa saison avec les escapades et les petites scènes qui sont deux festivals itinérants dans les communes du Grand Évreux agglomération pour les escapades et de la communauté d'agglomération Seineur pour les petites scènes. Ce sont en fait des échappées dans les campagnes et elles reprennent là en septembre une... Alors, c'est pas vraiment une avant-première, mais j'ai envie de dire, c'est presque une ouverture de saison avant l'ouverture de saison. Puisque.
C'est une pré-pré-rentrée.
C'est une pré-pré-rentrée. Bon, je pense qu'on peut dire ça. Philippe, vous nous arrêtez si on dit des bêtises. Hein.
Non, c'est effectivement. L'idée, c'est de reprendre contact avec un public, éventuellement un public voilà, un peu éloigné dans les campagnes, et d'être aussi l'occasion de reproposer justement la saison complète de la scène nationale. Donc voilà, c'est à la fois aller vers un nouveau public, faire un peu des échappées et de rencontrer un nouveau public.
C'est vraiment, et on a en fait, on retrouve l'idée d'une programmation audacieuse, parce que il y a des formes qui sont assez surprenantes parfois, mais surtout qui s'adressent aux petits comme aux grands. C'est assez familial et puis qui réunissent du cirque, du théâtre, de la danse, mais ça peut aussi être une fanfare ou même une clown. Je pense à Emma la clown qui aura lieu dimanche prochain à de Bouville, si je vous dis pas de bêtises, parce qu'il y a tellement de petits villages qu'on les a pas tous retenus, mais on en reparlera avec toi, JC. Voilà, vraiment l'idée, c'est ça, c'est aller vers un nouveau public et proposer d'autres formes. En fait, c'est un peu faire venir le spectacle dans les campagnes. Et donc ça commence dès ce soir. La reprise des escapades, c'est ce soir, à Arnières-sur-Iton, avec un spectacle qui s'appelle Entre chien et loup, qui est du cirque chorégraphié. Ça dure 25 minutes et c'est pour avoir en famille à partir de 6 ans.
Et pour... Très bien, vous me faites des signes en fait. Nous avons trop de papier sous les yeux là. Je ne suis plus du tout sur quel document vous êtes.
Non, c'est bon, c'est le bon document que tu as devant les yeux. Et pour ceux qui sont plutôt du côté d'Angerville, la campagne, on a aussi un spectacle ce soir. Je vous l'avais dit, hein, on s'échappe vraiment un peu partout dans le GEA. Et là, c'est un spectacle qui est assez surprenant. J'utilise beaucoup ce terme, mais parce que sur les escapades, c'est vraiment le mot qui les définissent. Ça s'appelle « Rencontre avec des animaux extraordinaires », Vaux. C'est une compagnie italienne qui, en fait, accueille le public à l'entrée du chapiteau et qui les invite à participer à une conférence sur les animaux. Mais finalement... C'est pas du tout une conférence à laquelle le public va assister, mais plutôt à une espèce de rencontre intergénérationnelle et de laquelle en fait les animaux présents deviennent témoins et voire même exemples. C'est un peu un parallèle en fait entre l'homme et l'animal et quelles leçons on va tirer de tout ça. Voilà, et ça se joue sous chapiteau et c'est donc ce soir à Angerville, la campagne.
J'ai l'impression dans ce que tu dis que voilà, ces programmations extérieures, faut que évidemment elles suscitent la curiosité, faut qu'elles soient un peu hors du commun, extraordinaire. Il y a un côté un petit peu pour interpeller le public, non ? Enfin, c'est ce qui lie un petit peu la programmation des petites scènes, par exemple, et des escapades, j'ai l'impression.
L'idée, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que ça s'installe dans les villages. Bien souvent, les équipes techniques et artistiques, elles arrivent avant. Là, sur le spectacle « Rencontre avec des animaux extraordinaires », le chapiteau va se monter aujourd'hui dans la journée. Donc forcément, les habitants du village s'interrogent, se demandent ce qui va se passer, même s'il y a déjà eu, ils sont plus ou moins au courant. Mais le fait de voir que ça s'installe dans le village, ça crée une espèce d'émulation.
Et puis c'est aussi, je pense, des spectacles qu'on a choisis très ludiques. Hein. Évidemment, c'est des spectacles à voir en famille. Voilà, c'est à la fois des spectacles intelligents, parce qu'il y a toujours des petites réflexions à l'intérieur. On aime bien apporter une petite réflexion, mais en même temps, voilà... C'est visible par toute la famille, on s'amuse beaucoup, c'est étonnant parce qu'on aime bien aussi surprendre les gens. Et je crois que de toute façon, le public aime être surpris d'une certaine manière, intelligemment, mais aime être surpris, voir des choses un peu originales, des choses qu'on ne voit pas forcément à la télévision. Et puis il y a ce rapport-là charnel entre les artistes et puis dans des endroits qu'ils connaissent parfaitement parce que c'est leur village, c'est leur place. Et on arrive comme ça, d'un seul coup, à transformer la place de village en un théâtre, une salle des fêtes, une église, en un lieu où d'un seul coup on va rencontrer des artistes et avec des spectacles toujours choisis un peu, triés un peu sur le volet pour aller justement à la rencontre de ce public sur des formes à la fois étonnantes mais aussi ludiques. Hein. On s'amuse beaucoup.
Parce que justement, on change de terrain. Enfin, quand on va au théâtre ou quand on va dans une salle, on va sur le lieu des artistes. C'est-à-dire que c'est eux qui sont chez eux et on vient leur rendre visite. Là, le système est complètement inversé sur ce genre de petites scènes ou d'escapades.
Oui, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens. D'abord, on essaie de briser les barrières un petit peu qui lient les structures culturelles telles que les nôtres, qui ont quelquefois une image un peu effectivement d'élitisme. Notre objectif, c'est de briser ces barrières. Alors, les barrières, elles sont multiples. Hein. Elles peuvent être effectivement la barrière de la distance, elles peuvent être les barrières économiques, elles peuvent être aussi les barrières, je dirais, éducatives. Et donc, notre objectif, c'est vraiment d'essayer de lever au plus ces barrières pour permettre à un public le plus large possible de découvrir et d'avoir du plaisir, en fait, à rencontrer des artistes, à voir des spectacles, et puis après, à faire un chemin avec nous dans une saison.
J'ai l'impression, Cécile, en regardant la programmation aussi des petites scènes, qu'il y a un côté cirque, chapiteau assez présent.
C'est très présent, parce que l'idée d'installer le petit chapiteau, puis c'est des formes aussi qui peuvent tourner facilement. L'idée, je le disais, d'installer le chapiteau, c'est vraiment aussi d'interpeller le public avant même que le spectacle ait lieu. Et puis, il y a aussi des envies de déambulation. Je reviens sur un petit spectacle qui va clore donc la saison des petites scènes et qui s'appelle « Le bonheur est dans le chant », mais dans le chant avec un... C'est en fait une fanfare. Voilà, et je trouve que l'idée, c'est quand même assez génial. C'est que ils ont décidé d'évaluer en fait le bonheur de vivre dans la commune où ils s'installent.
Ils appellent ça d'ailleurs l'indice de bonheur urbain.
Voilà, l'IBU, l'indice de bonheur urbain. Et en fait, ça permet après d'attribuer un espèce de label ville heureuse. Et donc pour ça, la fanfare, elle va déambuler dans le village, elle va interpeller un peu le public et organiser un espèce de cortège comme ça pour pouvoir en fait évaluer cette Ibu et décerner le label Ville Heureuse. Voilà. Et en fait, moi j'ai envie de vous dire sur les escapades, les petites scènes, c'est ça, c'est de la légèreté, c'est de la surprise et c'est du bonheur en fait en général.
Eh bien, nous attendrons avec impatience d'avoir dans nos communes notre indice Ibu et puis notre label Ville Heureuse. Exactement. Allez,
vous retrouvez, alors là, on a fait des petits focus, mais vous retrouvez toute la programmation des petites scènes et des escapades sur le site de la scène nationale.
Très bien. Nous partons en pause musicale, si ça te convient, Cécile, avec Nicolas Répac.
Répac, c'est ça, un album qui s'appelle Black Box.
Alors, il faut que je retrouve parce qu'on est enfoui sous.
Mais sur les piles.
Sous les documentations, voilà, c'est
de
ça.
De présentation de saison, de
c'est
rendez-vous.
Ça, rentrée, c'est ça, la rentrée. C'est... On a tous nos cahiers, nos cartables et nos, et nos livres. Et là, c'est les saisons complètes des scènes aussi du département qui sont assez riches, hein, je crois.
Absolument, oui, oui, oui. Et puis, on n'a pas encore eu le temps de tout mettre en chemise. Mm. Nicolas Répac.
Carolina, 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 da Segongo jusqu'au Fermé Malo. Carolina, Carolina, da Segongo jusqu'au Fermé Malo. Dansé Congo non laye Congo, dansé Congo moi laye Congo. Carolina Kao, la nuette se veut engagée. 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 Carolina Kao. Carolina Kao, da Segongo jusqu'au Fermé Malo. Carolina Kao, da Segongo jusqu'au Fermé Malo. Dans Segongo non la yongo. Carolina Kao, la nuit, tes oreilles agitent.
Voilà. Nous prenons le temps, hein, Cécile. Nous reprenons nos marques, nous échangeons des regards.
Pour nous aussi.
Mais nous prenons le temps, nous l'annonçons dès le début. Et une fois de plus, nous avons été jusqu'à la dernière note. Qu'avons-nous écouté précisément, Cécile ?
Alors, c'est donc Nicolas Répac, Black Box. C'est un album. Nicolas Répac, c'est un jazzman. Sur cet album-là, effectivement, Black Box, on a vraiment l'impression d'ouvrir une boîte noire, une boîte sur le blues, sur la soul aussi un petit peu. Il manipule les sons, il travaille, il bidouille, j'ai envie de dire. C'est des samples de voix qui l'assemble après et ça donne effectivement, ça nous rappelle un espèce, oui, ça nous rappelle le blues, ça nous rappelle aussi le jazz, mais il y a d'autres morceaux sur l'album qui sont un peu plus parfois même hip-hop et un peu plus funk, un peu plus soul.
Très bien. Ça faisait longtemps, j'ai envie d'avoir une petite virgule là. C'est ce qui nous sert aussi à nous mettre dans l'ambiance. Ça fait partie des petites respirations que j'aime beaucoup. Nous recevons, alors depuis le début de l'émission, mais ça va être le moment où nous allons un peu plus échanger, avec Philippe Desreder, directeur et programmateur de la scène nationale Évreux-Louviers. Dans ces programmations, justement, nous y retrouvons pêle-mêle, théâtre, musique, danse, cinéma et bien d'autres disciplines. J'ai envie de commencer, Philippe. Comment est-ce que une programmation se réfléchit? Comment est-ce qu'on crée une cohérence dans une programmation à l'année?
C'est pas toujours facile parce qu'effectivement, on est tributaire aussi des propositions. Je crois qu'il y a d'abord des coups de cœur. Nous, on travaille beaucoup avec des gens qu'on essaie de qu'on connaît. On est dans des réseaux à la fois nationaux. On a une expérience aussi. Donc déjà avec tous les gens qu'on connaît et qu'on aime, les metteurs en scène, les chorégraphes. Ils ont toujours des propositions régulières et donc on choisit un petit peu dans cette proposition. Après, c'est vrai que chaque programmateur a une ligne un peu esthétique, une ligne philosophique, on va dire, de programmation. Moi, ce que j'essaye de faire dans ce que je propose, c'est toujours qu'il y ait en fait une espèce d'ascenseur, un ascenseur qui permet à plusieurs étages de pouvoir rentrer. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien rentrer dans des spectacles très ludiques, éventuellement le cirque, des spectacles d'humour.
Facile d'accès.
Facile d'accès ou tout au moins qui ne sont pas forcément, entre guillemets, je dirais, gnangnan. Ce sont des spectacles vraiment où il y a toujours du sens, il y a toujours quelque chose à l'intérieur, mais qui proposent, où on peut y aller à la limite en famille, où ça peut se partager très facilement, où quelqu'un qui n'est jamais allé au spectacle prendra immédiatement du plaisir. Et puis, au travers de la programmation, on va évoluer, on va avancer un peu sur des projets de plus en plus, je veux dire, expérimentaux, pour aller jusqu'à des projets vraiment de création expérimentaux. Cette année, par exemple, on aura deux journées OVNI, donc des journées un peu hors normes, avec des propositions extrêmement expérimentales, mais qui invitent peut-être, là, pour le coup, des spectateurs qui ont fait un grand parcours, qui ont vu beaucoup de choses et qui ont envie d'aller un petit peu plus loin dans des propositions un peu de recherche. Donc on sait bien que ça, c'est pas forcément à mettre entre toutes les mains, mais on a aussi cette mission, nous, d'être un peu comme dans la recherche scientifique. C'est-à-dire qu'à la recherche scientifique, il y a la recherche appliquée, puis il y a la recherche fondamentale. La recherche fondamentale, elle n'est pas forcément connue du grand public, mais elle est nécessaire pour que justement la recherche appliquée, enfin tout au moins les propositions puissent être après créées. Donc on est un petit peu dans ce soutien-là. On a aussi cette mission de soutien à la création, de soutien à la recherche, et puis aussi de diffusion. Donc on est un peu sur tous les bancs.
Du coup, sur la diffusion, vous nous avez parlé des goûts, des différentes, le spectacle plus facilement accessible et puis l'expérimentation. Mais vous mélangez aussi les arts. Enfin, c'est-à-dire, au bout d'un moment, il y a de la danse, il y a du chant, il y a du théâtre. Les différents arts se croisent. Est-ce qu'au bout d'un moment, il y a pas un côté pourcentage forcément, mais de se dire, au bout d'un moment, il va falloir qu'on passe par telle et telle chose. Au-delà des envies, comment est-ce que ça se construit? Est-ce qu'il y a une recette presque, d'une année sur l'autre?
Je crois qu'on a déjà une espèce de tradition. C'est vrai que les scènes nationales sont au départ plutôt des scènes axées sur le théâtre. Donc il y a cette force-là du texte, parce que c'est aussi important, le texte, les comédiens, le spectacle vivant. On travaille dans le spectacle vivant, donc on est sur ça. Donc c'est vrai que ça, c'est une base, un socle important. Et puis c'est aussi une manière de faire passer aussi un sens au travers des comédiens, des textes. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, les classifications explosent complètement. On n'est plus du tout uniquement dans le théâtre, uniquement dans la danse, uniquement dans la musique. On a vraiment des propositions où se mêlent toutes les disciplines. Donc on a quelquefois même, nous, du mal à donner une explication en disant « oui, ça c'est un spectacle ». Comme par exemple, je pense à un spectacle qui s'appelle « Chip », où il y a à la fois une circassienne, à la fois un danseur, à la fois un comédien, un mouton sur le plateau, des fils barbelés. C'est extrêmement difficile de donner l'explication, mais c'est là où effectivement on prend beaucoup de plaisir, parce qu'on est vraiment dans des propositions extrêmement contemporaines qui correspondent bien à notre époque. On est dans une époque où on croise beaucoup. L'ère Internet a aussi favorisé ça. Les gens ont accès à beaucoup, beaucoup d'informations, à beaucoup de... peuvent aussi bien voir. Et c'est vrai qu'on est vraiment dans cette énergie-là. Donc, on est plutôt sur... Quand on fait un choix, on est plutôt sur un choix esthétique, une correspondance là où il y a du sens. Et après, le pinceau, on va dire, qui va décrire ce tableau sera extrêmement varié. On va pouvoir un jour avoir de la danse, un jour du théâtre, de la musique, mais en fait tout ça se croise et on est vraiment plutôt sur ce que ça raconte en fait au niveau idée, innovation, que sur l'emballage en quelque sorte.
Depuis le début là de l'interview, Philippe, on vous sent en fait très attaché aussi au sens. Effectivement, il y a l'idée du divertissement, vous parliez de différents étages pour rentrer dans les spectacles, mais on sent que vous êtes aussi attaché au sens et à la portée finalement des spectacles que vous programmez.
Oui, parce que je pense que il y a toujours un intérêt d'un spectacle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que au travers de, alors il peut y avoir qu'une seule idée, mais souvent c'est ce qu'il faut. D'ailleurs, il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de choses à dire. Mais à l'intérieur, il y a souvent une idée, un regard social. Les artistes sont quand même, à mon sens, les êtres humains qui aujourd'hui sont hypersensibles, c'est-à-dire qu'ils reçoivent avec beaucoup plus de force que nous les problématiques sociaux, les événements qui peuvent se passer, mais aussi bien les petits événements du quotidien. J'ai souvent l'occasion de dire, ça c'est le quotidien qui d'un seul coup nous montre l'universel. Et c'est ces petites questions-là qui, à mon avis, au travers d'un spectacle où on peut beaucoup s'amuser, on peut beaucoup être diverti, on peut se divertir, mais intelligemment, avec à un moment donné une question qui est posée. Et de toute façon, il ne faut pas se tromper, le public, il est tout à fait sensible à ça. Il aime aussi, à un moment donné, oui, c'est vrai que ça pose cette question-là, c'est vrai qu'on pourrait peut-être réfléchir. Donc, sans forcément donner la réponse, il y a une question qui est posée et au travers, effectivement, d'une forme ludique, d'une forme divertissante, d'une forme surprenante, parce que j'aime beaucoup aussi les spectacles qui nous surprennent, mais pas seulement du divertissement pour du divertissement qui n'apporte rien au niveau de la réflexion. Je crois beaucoup à ce que la culture, elle soit en fait une espèce de formation continue de l'individu, et c'est pour ça que j'adore ce métier et que je le fais.
D'ailleurs, on sent dans les échanges que nous avons eus là à l'instant et puis tout à l'heure sur les petites scènes qu'il y a un côté culture pour tous, partage et presque éducation dans le sens large, quoi.
Oui, moi, en fait, je viens un peu ce qu'on appelait à l'époque, il y a quelques années, l'éducation populaire. Alors évidemment, c'est aujourd'hui un peu...
J'osais pas prononcer.
Non, mais tout à fait. C'est un peu un terme qui a été un peu galvaudé. Mais non, moi, je revendique très fortement ça parce que je pense qu'à un moment donné, on est dans ça. On a cette poursuite... on essaie de participer à ce que chacun puisse former sa propre personnalité à l'intérieur de croisements qu'il peut avoir au niveau des artistes. Et les artistes sont là pour effectivement nous interroger, nous questionner, nous aider à forger notre propre personnalité. Et je crois que ça, c'est effectivement primordial.
Ce sont les enjeux de l'accès à la culture. Pourquoi est-ce que c'est intéressant, plus exactement, d'aller voir des spectacles et de...
Oui. Et
continuer à se surprendre.
On a des missions de service public, c'est-à-dire qu'à la fois on est au service du public, mais on est aussi au service des artistes. C'est-à-dire qu'on est aussi là pour aider les artistes à s'exprimer, à poser justement ces questions, comme je disais tout à l'heure. Et en même temps, on est là aussi pour que le public puisse rencontrer cette parole. Donc on est un peu ce qu'on appelle les passeurs, on est au milieu des deux, on essaie de faire en sorte que on crée des passerelles entre à la fois les artistes et le public. Et c'est un peu notre mission. C'est pour ça qu'à la scène nationale, on a effectivement trois personnes chargées des relations avec le public qui font ce travail-là d'incitation, de persuasion. On a dit mais si, c'est pour vous, mais vous savez, les spectacles qu'on propose, c'est pour tout le monde, vous pouvez prendre du plaisir, venez, même si vous pensez non, allez, venez.
Du coup, j'avais envie de mettre un petit peu en parallèle. Alors, vous le vivez, vous nous l'expliquez bien, on entend tout ça. Cela dit, il y a quand même, de manière assez flagrante, une image un peu élitiste parfois aux programmations proposées. On peut avoir l'impression rapidement de se dire « Non, ça ne s'adresse pas à moi. » Est-ce que c'est quelque chose sur lequel... vous êtes conscient ou
bien
c'est
sûr.
Moi qui fabule peut-être ?
Non, mais il y a une histoire effectivement du spectacle vivant qui remonte presque, on va dire, sans caricaturer, mais au niveau de Louis XIV. On sait bien qu'à un moment donné, il y avait des spectacles qui étaient reconnus par la cour et donc du coup qui faisaient... on est dans ce que disait Bourdieu, la distinction, c'est-à-dire qu'on va au spectacle pour se distinguer de la masse. Donc il y a encore ça qui est très présent, notamment, y compris qui sont forcément liés souvent aux créations des théâtres. C'est vrai qu'à Évreux, il y a ce théâtre à l'italienne qui portait un peu quelque part un peu cette notion-là, avec des grands escaliers. C'est comme un peu, on a l'impression que c'était un peu des temples.
Et le lieu est déjà impressionnant.
Il marquait en fait une forme de distinction, c'est-à-dire qu'on allait au spectacle, on pouvait aller au musée, et puis il y a les escaliers, donc c'est pas innocent. L'architecture n'était pas innocente, et donc créer en fait cette idée-là, qu'il y avait à la fois une culture populaire, la musique populaire, les danses, les chants, voilà. Et puis de l'autre côté, une musique qui était un peu pour les personnes de la noblesse ou les bourgeois. Et donc effectivement, on traîne un petit peu cette image-là depuis toujours. Hein. Après, c'est vrai qu'il y a aussi des spectacles qui font appel un peu à un effort. Il y a certains spectacles qui demandent un effort parce que voilà, c'est des textes, c'est des spectacles poétiques, donc ça demande effectivement. Voilà. Donc on est quelquefois dans cette difficulté-là de faire comprendre au public que la plupart des spectacles, je dirais presque à 99% des spectacles qu'on propose, sont des spectacles qui sont tout à fait accessibles au public et que les gens peuvent prendre du plaisir. Aller voir ça. Donc c'est ça, cette image-là qu'il faut effectivement casser. Et tout le travail que l'on fait à la fois dans les quartiers, avec les associations, avec les structures culturelles de la ville, que ce soit la médiathèque, que ce soit le conservatoire, ou dans les villages avec les élus, avec les associations locales. On va avec des petits spectacles, comme on l'a dit tout à l'heure, dans les escapades ou les petites scènes. On est vraiment sur cette essayer de casser cette image-là pour bien montrer que on peut prendre du plaisir et en même temps on peut se cultiver, entre guillemets, autour des spectacles qu'on propose.
Oui, j'ai envie de vous dire aussi que cette politique artistique, avec tout le sens et la portée et l'exigence que vous lui donnez, elle s'inscrit également sur un territoire. Vous parliez d'associations, d'autres relais culturels, associatifs ou écoles. Elle s'inscrit aussi avec une dynamique de territoire. C'est comme être un acteur quelque part aussi avec ses enjeux. Mais là, sur un lieu qui est aussi notre lieu de vie de tous les jours, de tout à chacun. Donc, un peu, comment ça se, ça se coordonne, ça s'organise aussi. Vous n'êtes pas que tout seul. Il y a aussi beaucoup de réseaux, d'ouverture d'autres portes avec d'autres acteurs du territoire, je suppose.
Oui, déjà, dans chaque ville, on a ce rapport-là avec les structures culturelles, avec la médiathèque, par exemple, on a beaucoup d'actions, tout ça. Mais on va prendre un exemple, par exemple, en direction du jeune public ou les scolaires. La Cité nationale travaille avec plus de 30 lycées et collèges de la région. On a effectivement beaucoup, du coup, de jeunes qui viennent au spectacle. Et ça ne peut se faire que s'il y a effectivement une collaboration de nos enseignants ou des relais sur place. On a la même chose dans les villages. Il faut absolument qu'on trouve à chaque fois, quand on va dans un village, une association, un groupe d'élus, une école, parce que sinon, ça ne marche pas. On n'arrive pas dans un village avec un spectacle, on met une affiche et puis on pense que les gens vont venir. Non, il faut qu'il y ait ce travail-là de connexion. Aussi bien dans le réseau 26, qu'on a appelé le réseau 27, donc c'est un réseau de direction, de directeurs d'institutions culturelles, donc les théâtres de l'heure, où on fait un travail en commun, on essaie de réfléchir à ce qu'on peut faire ensemble, comment on peut créer une dynamique. Voilà, donc ça, c'est des réseaux, ou le réseau baroque, le réseau de danse contemporaine. On essaie vraiment d'être à la fois dans les réseaux très locaux, les quartiers, les villages, le département avec ses collaborations, et puis au niveau régional avec aussi des structures culturelles régionales pour lesquelles, par exemple, on fait des échanges de public avec le Cirque Italien d'Elbeuf. Nous, on va chez eux, ils viennent chez nous. Voilà, il y a cette relation-là qui me semble être importante pour pouvoir avancer un peu dans l'échange de public et aussi dans ce croisement un peu des gens.
Et je dirais aussi, plus une structure ou plus ces passeurs sont en lien les uns avec les autres, avec le public, justement, là je rebondis sur cette côté élitiste image, plus on travaille ensemble et plus cette idée peut aussi, et les préjugés qui peuvent être véhiculés derrière s'estompent parce que justement on apprend aussi à se découvrir à travers le socle commun qui est la culture, la rencontre avec l'artiste. Et voilà, après ça fait partie aussi de sa vie, de son travail, et ça paraît plus évident. Et peut-être que là, du coup, les questions se posent moins aussi.
Et c'est vrai qu'il y a des partenaires qui paraissent quasi naturels, comme la médiathèque, le conservatoire avec qui vous travaillez. C'est vrai que d'autres partenaires paraissent moins naturels, comme les collèges, les lycées. Enfin, on pourrait se dire, voilà, on s'adresse à un public adulte, on les aura quand ils seront adultes, quoi. On sent qu'il y a des passerelles qui se créent dans tous les sens.
Oui, je pense qu'il est important de travailler très tôt, hein, aussi bien dans les tout-petits, les collèges. Et c'est vrai que l'école est un moyen formidable, parce que là, on touche toutes les classes sociales. On n'est pas sur uniquement un public qui a envie d'y aller. Voilà. Donc, on est vraiment sur une formation du public très tôt. Ensuite, on a toujours un peu de difficulté, parce que dès que les jeunes actifs se mettent dans le monde du travail, ils sont jeunes, ils commencent à travailler, les salaires ne sont pas énormes, ils ont des enfants, donc c'est toujours très compliqué. Donc là, on a toujours beaucoup de difficultés à redonner un peu, à faire reprendre le chemin de... parce que ça coûte cher aussi d'une certaine manière. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs sur ce public-là, on a décidé de faire en sorte que le tarif réduit allait jusqu'à 30 ans. Donc on n'est plus du tout sur 18 ans comme on le faisait avant, mais sur 30 ans. Donc ça, voilà, c'est bien l'objectif de montrer qu'effectivement on a compris que effectivement, c'était pas évident pour un jeune couple d'aller au spectacle. Donc voilà, on essaie de faire cet effort-là. Et puis après, effectivement, il y a les abonnés de longue date qui nous suivent, qui suivent la scène nationale depuis longtemps. Donc voilà, on est sûr. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le public qu'il faut, sur lequel nous, on veut travailler, c'est effectivement ces jeunes actifs qui ont du mal à sortir parce que, effectivement, c'est compliqué hein, avec les enfants, avec un coup. Voilà. Et donc, c'est aussi, sur ce travail, enfin, c'est aussi un travail qu'on essaie de faire.
Je voulais revenir sur, on parle du public depuis un petit moment. Vous soulignez tout à l'heure que votre travail, c'est d'être l'intermédiaire entre l'artistique, les artistes, les créateurs et le public. Il y a un système de résidence avec lequel vous travaillez. Qu'est-ce qu'une résidence ? À quoi ça sert ? Et concrètement, qui est en résidence cette année ?
Alors, on a, pour nous, par exemple, sur cette saison, on a quatre compagnies ou quatre artistes en résidence. Hein. Donc, il y a effectivement Robert Cantarella, qui est un metteur en scène. Donc, Fergus Assendé, qui est aussi un écrivain, metteur en scène, comédien africain. Donc, on a aussi cette relation internationale. Un autre international, donc, Paul Frenac, qui est chorégraphe, au niveau de la danse contemporaine. Et puis, un musicien contemporain, Alexandros Markeas, qui, lui, est d'origine grecque. Bon, donc, oui, une dimension internationale. Les principes de résidence, c'est que en fait, chaque compagnie, à la fois est soutenue par la scène nationale, par du temps de plateau, ce qu'on appelle c'est-à-dire du temps de répétition. On donne une salle et ils peuvent répéter pendant 3 semaines, 1 mois, suivant le temps qu'ils ont besoin pour créer leur spectacle.
En condition de spectacle.
Bah voilà,
enfin, réelle quoi.
Ils ont une salle de spectacle, ils ont le matériel, ils peuvent créer, du temps, ils ont du temps pour travailler. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est de pouvoir d'aider financièrement cette compagnie. Donc il y a des participations financières pour aider à ce que payer les salaires, hein, puisque nous on tient absolument à ce que les comédiens ou les intervenants soient payés, hein, on n'est pas du tout sur du bénévolat, on est bien sur du professionnalisme. Donc les répétitions doivent être payées, hein, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs dans les compagnies, parce que souvent les compagnies ont du mal à boucler le budget, donc elles sont obligées de se mettre sous le régime de l'intermittence pour pouvoir travailler. Donc là nous on tient beaucoup à ce que les compagnies puissent travailler dans de bonnes conditions. Et puis ensuite, on achète les spectacles. Et puis autour de ça, il y a des travaux d'action, ce qu'on appelle l'action culturelle, c'est-à-dire des répétitions publiques, des rencontres avec des groupes, des masterclass, si c'est des musiciens. Il y a toute une série, des stages, des ateliers. C'est toute une série. Et on s'engage sur 3 ans pour que le public aussi puisse faire un parcours, voir l'évolution d'un travail. Quelquefois, on se fait une idée, il y a un spectacle. Les spectacles sont quelquefois hyper bien réussis, quelquefois un peu moins réussis. Et c'est aussi intéressant de voir que c'est vivant, hein, c'est vivant, ça évolue aussi au moment d'une création, ça peut évoluer. Donc on est là vraiment pour soutenir à la fois les créateurs et aussi pour mettre en relation, faire comprendre aussi au public qu'une création, ça a une naissance, ça évolue, il y a une adolescence, il y a un temps de maturité, et puis ça passe à autre chose.
Donc certains spectacles sur lesquels ensuite il y a des diffusions internationales sont construits parfois à Évreux, en partie à Évreux.
Tout à fait. L'objectif, c'est qu'à chaque fois, les spectacles soient de toute façon répétés, créés et qu'ils puissent être présentés soit en première. Mais on a la priorité, on a la primeur en fait, pas forcément la priorité, mais on a la primeur de ces créations. Et là, c'est une invitation et on explique bien au public qu'ils vont assister à la création, à la naissance d'un spectacle qui va avoir une vie et qui... Et ça, c'est toujours un moment aussi très émouvant.
C'est une dynamique aussi culturelle sur un territoire, d'avoir des résidences, d'avoir des gens qui travaillent sur la durée, sur un territoire.
Bien sûr, parce qu'en fait, là, par exemple, le fait d'avoir Robert Cantarella sur place, on l'utilise entre guillemets, mais on travaille avec lui, il y a beaucoup d'échanges, il nous aide par exemple sur tous les ateliers, sur une réflexion. Il y a aussi il y a un apport important. Le public va pouvoir suivre, comme je disais tout à l'heure, une série de spectacles. Donc il y a vraiment une découverte d'un travail en profondeur. Et c'est pas seulement parce que quelquefois, on est dans des structures, des théâtres où on accueille un jour une compagnie, elle arrive la veille, elle monte son spectacle, elle repart le lendemain, et il n'y a pas de connexion réelle, hein, si ce n'est que le spectacle. Bon, c'est déjà ça, mais bon, voilà. Et nous, on pense qu'effectivement, on peut aller un peu plus loin dans la rencontre avec l'équipe, avec les ateliers, avec les jeunes qui nous suivent nos ateliers, avec le public, et puis cette rencontre avec les artistes. Donc ça, c'est cette communauté-là fait que ça crée une dynamique, ça crée un échange, et ça enrichit le travail du quotidien pour tout le monde.
dans la programmation de cette année. Est-ce que vous avez un coup de cœur personnel?
Des coups de cœur, j'en ai tout plein, mais bon, je pourrais citer toute la programmation.
Il y en a sûrement un peut-être qui vous parle un peu plus.
Oui, non, mais bon, effectivement, il y a quelques spectacles comme le spectacle de Palfronac, justement, Imen, qui est un spectacle de danse contemporaine extrêmement vivant, enfin voilà, plein de, voilà, avec des danseurs magnifiques, superbes. Il y aura aussi du cirque, notamment avec le cirque australien. Donc voilà, c'est des choses qui, voilà, sont vraiment des coups de cœur. Après, en spectacle, je dirais un des premiers spectacles à voir absolument, c'est Inventaire de Philippe Mignano, donc le spectacle mis en scène par Robert Cantarella, avec des actrices absolument formidables, enfin, des très grandes actrices comme Edith Scob, voilà, Florence Giorgetti. Donc voilà, c'est sans doute un des premiers spectacles de la saison, mais c'est sans doute le spectacle qu'il faut voir, puisque c'est un spectacle qui a été créé il y a 30 ans avec ces mêmes comédiennes, qui est repris aujourd'hui, 30 ans plus tard, et c'est une petite merveille de spectacle qui avait été d'ailleurs fait l'objet d'une captation pour la télévision à l'époque et qui avait fait un peu le buzz, comme on dit aujourd'hui, dans le domaine, et qui est repris aujourd'hui par Robert. C'est un peu aussi une manière pour lui de s'installer dans cette région, puisque sa compagnie est désormais installée à Évreux.
Et pour conclure, y a-t-il un immanquable que personne ne peut rater sous aucun prétexte dans la programmation de cette année ?
Tout est immanquable.
Tout est immanquable.
Non, il y en a sûrement un.
Non, mais
pas forcément le plus beau ou autre, mais quelque chose peut-être de grand public bien fait ou des plus attrayants, par exemple.
Le plus simple, c'est de venir le 5 octobre. C'est le spectacle d'ouverture de la saison, donc au Cadran, avec une compagnie qu'on aime beaucoup, donc la compagnie de Claire d'Ancoigne, Tête de la Licorne. Spectacle vraiment familial, théâtre d'objets, grandes marionnettes, grands monstres, avec une exposition. Voilà, c'est vraiment, on avait accueilli, pour ceux qui ont pu voir ce spectacle, le spectacle Spartacus sous la halle de la Madeleine, qui était vraiment plébiscité par tout le public. Et ça, c'est vraiment un spectacle très joyeux, très, très étonnant, très festif. Et c'est le tout premier spectacle de saison, spectacle d'ouverture. Il y aura une exposition, une performance en plus. Il y aura toute l'équipe qui sera là pour accueillir le public, pour éventuellement donner des indications sur les spectacles de la saison. Voilà, donc c'est peut-être ça qu'il ne faut pas louper. Voilà. Et puis, la même chose à Louviers avec le quartet Arnaud Van Lacker Quartet, qui a une musique absolument géniale. Donc, il ne faut absolument pas louper ça.
Très bien. Eh bien, merci. Souvent aux invités, enfin, ce n'est pas souvent, traditionnellement, aux invités, on leur demande de venir avec la pause musicale qui suit l'échange. Avec vous, ça n'a pas dérogé à la règle. Qu'est-ce que vous nous avez choisi ?
Justement, j'ai choisi un des morceaux du quartet Arnaud Van Lacker Quartet, qui est une musique très festive, un peu d'inspiration d'Amérique centrale, à la fois du swing Zigan, donc c'est une très très belle équipe, qu'on va retrouver d'ailleurs plusieurs fois dans la saison, qu'on va retrouver dans le cirque du Théâtre du Prato, qu'on va retrouver dans le bal de la soupe, donc c'est aussi une opération très sympathique, on déguste de la soupe avant le spectacle, et ensuite on fait un bal avec ces groupes, donc c'est un groupe qu'on va retrouver dans la saison, et donc je vous propose d'écouter un petit morceau de Arnaud Van Lacker Quartet.
Eh bien, nous faisons ça, merci à vous Philippe de Roder.
Voilà, merci Philippe. C'était donc le Arno van Lancker Quartet qu'on retrouvera donc à Louviers, au Théâtre du Grand Forum, le 16 octobre pour l'ouverture de saison de la scène nationale à Louviers.
Et les ouvertures de saison, nous voulions en faire un petit tour très très rapidement. Parce que en off, donc pendant la musique, on était en train de se dire que dans nos bureaux respectifs étaient arrivées toutes les programmations de toutes les salles du coin. On en riait d'ailleurs en se disant c'est assez compliqué, il y en a qui ont des tas plus que d'autres. Philippe, vous avez de plus gros tas que nous a priori quand même. Hein.
Ah bah oui, j'ai les tas des programmations nationales, internationales. Mais ceci étant dit, c'est vrai que en feuilletant les programmes. Je trouve qu'il y a une très très belle évolution des programmes des théâtres du département, y compris avec les théâtres avec qui on collabore, hein, puisqu'on a à chaque fois des collaborations avec ces théâtres au moins une fois par an. On emmène le public chez eux et inversement. Et je dois dire que je suis assez content de voir qu'il y a vraiment une belle programmations quoi, dans ce département. Et ça, c'est vraiment voilà, très, très, très jouissif.
Voilà, j'étais en train de chercher en parallèle les programmations qu'on nous aussi on a mis sur les murs. Alors on en met partout des programmations. C'est la rentrée.
C'est ça, et c'est la rentrée pour les structures culturelles aussi.
Alors toi, Cécile, t'avais repéré deux trois choses. Alors c'est vraiment pas une liste exhaustive de ce qui se passe. Bien au contraire, on va vous inviter à vous renseigner par vous-même au bout d'un moment. Mais voilà, on avait quand même envie de partager deux trois choses avec vous.
Donc comme d'habitude, c'est purement subjectif, hein, mais parce qu'il faut forcément sélectionner. Dès ce week-end, ça commence. Voilà, ça y est, c'est parti avec le Cirque Théâtre d'Elbeuf qui fait son ouverture de saison en plein air. C'est un pari, hein, le temps va se maintenir. Mais en général,
pari audacieux.
Oui, il fera beau. Les fêtes d'ouverture de saison du Cirque Théâtre, c'est toujours un excellent moment, très convivial, très festif. Et là, cette année, donc, c'est un spectacle d'acrobatie et de voltige aérienne avec 6 jeunes acrobates qui sortent tout juste de l'école du cirque. Et donc, c'est ce week-end, samedi et dimanche, au Cirque Théâtre d'Elbeuf. Enfin, pas au Cirque Théâtre, dans les jardins de la municipalité à Elbeuf, puisque c'est en plein air. Voilà. Après, moi, j'ai fait un grand saut jusque fin septembre avec le Hangar 23, qui fait son ouverture donc le 27 septembre avec un spectacle qui s'appelle Ambiante de Stéphanie Aubin, qui est un spectacle de danse. Et puis bien sûr, ils en profiteront pour, enfin toute l'équipe du Hangar 23 en profitera pour présenter les spectacles accueillis cette année qui sont comme d'habitude assez riches et très variés aussi au Hangar 23. Et j'avais aussi envie d'attirer votre attention sur la fête d'ouverture de saison de la salle de la chapelle Saint-Louis qui se développe, j'ai envie de dire, vraiment de plus en plus. Et cette ouverture de saison aura lieu le 28 septembre. Elle est orchestrée par Olivier Lopez, Actea Compagnie dans la cité. Il reste assez vague sur cette ouverture de saison qui, je pense, sera pleine de surprises. Et puis plus globalement, je vous encourage vraiment à aller faire un tour sur les sites de ces structures. Moi j'en ai sélectionné 3, mais il y en a encore plein d'autres. Et puis bah justement, j'y sais, toi tu en as d'autres entre les mains.
Alors moi je voulais m'arrêter à Louviers. Notamment avec la rentrée du Moulin et de la Guerre aux Musiques à Louviers qui fait une rentrée spectaculaire. C'est comme ça qu'il l'appelle. Également demain, le 15 septembre, entrée libre à partir de 18h. Et dans cette soirée, 6 spectacles. Comme ils disent eux-mêmes, 6 spectacles pour le prix d'un et en plus c'est gratuit. Donc comme quoi, il n'y a pas trop à réfléchir. Donc il y aura de la fanfare, il y aura du chant, du piano, de la danse, des présentations vidéo, enfin tout un tas de choses. Donc voilà, ça c'est demain, la rentrée au Moulin de Louviers. Et nous parlions de résidence tout à l'heure avec Philippe. Nous suivons d'un peu plus près les résidences de la guerre aux musiques des groupes de musique de la scène locale, voilà, je vais y arriver. Et il y a la soirée de présentation issue des résidences de l'année dernière qui se tiendra le 6 octobre avec 3 groupes accueillis en résidence l'année dernière, à savoir la HH Compagnie, dont nous avons entendu beaucoup parler cette année, Nouvelle Nocturne également, dont nous entendons beaucoup parler, et un groupe peut-être dont nous avons entendu un petit peu moins parler, mais qui est tout aussi méritant, c'est The Ship Shakers. Voilà, donc ce sera la soirée qui se passera au Moulin, mais c'est la soirée de la guerre aux musiques, ils ont des liens très étroits eux aussi, qui se passera donc le 6 octobre.
Je crois qu'on a fait le tour. Enfin, en tout cas, voilà, encore une fois, une petite liste purement subjective de ce qui se passe dans la saison. Et puis, bah, allez, deuxième petite virgule.
L'émission touche à sa fin. Nous voulions vous rappeler notre prochain rendez-vous qui sera le vendredi 5 octobre à 12h30, comme à notre habitude. Mais ce sera un petit peu particulier.
Cette fois-ci, la radio sort de ses murs. C'est un peu une habitude à Principe Actif maintenant.
L'était un peu moins à Scène de Vie.
Voilà. Donc là, cette fois-ci, Scène de Vie aussi a envie de sortir des studios. Et donc, on sera au cadran. Pourquoi au cadran ? Parce que le 6 et le 7 octobre, Philippe de Roder, vous nous en avez parlé, c'est l'ouverture, la grande fête d'ouverture de la saison de la scène nationale, avec une grande installation dans le cadran, une carte blanche donc au théâtre de la Licorne. Et on s'est dit que nous, l'équipe de Scène de Vie, on irait voir un petit peu comment ça se passe, la préparation d'une grande soirée d'ouverture, même d'un grand week-end d'ouverture de saison.
Voilà, rappelons quand même pour les auditeurs que Scène de Vie et la scène nationale, les liens sont plus qu'évidents. Hein. C'est né d'ailleurs cette émission des liens entre Principe Actif et la scène nationale. Très clairement, voilà pourquoi est-ce qu'on se permettra d'autant plus d'aller traîner nos micros
dans les coulisses de la scène nationale justement. On finit cette émission comme la tradition le veut, maintenant depuis plusieurs années, par un voyage, une escapade dans le monde. Et cette fois-ci, on part en Lettonie. Alors, vous m'excuserez, je ne parle pas encore le letton, la prononciation, sausedžas, j'espère que ça ira pour la prononciation. C'est donc un ensemble de 8 femmes, 8 voix vraiment très puissantes. C'est ce qu'on appelle de la polyphonie archaïque. Et moi, j'ai envie de dire, c'est vraiment un feu d'artifice vocal.
Eh bien, nous nous quitterons là-dessus. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.